Sandrine, Nathanaël, c'est Positif Morning.
Rebonjour Lionel Fan.
Bonjour Sandrine.
Ça va toujours ?
Ça va très bien.
Et bah jusqu'à 10h, Lionel Fan est avec nous sur Phare FM. Lionel Fan est météorologue. De quoi est-ce qu'on va parler ?
Ah bah on va parler de météo. Ça tombe bien Sandrine.
Bah oui,
ce matin, on va essayer d'en savoir un peu plus. Est-ce qu'il est possible de nous dire les grandes thématiques qu'on va aborder d'ici 10h, Lionel ?
Tout à fait. Alors, on va aborder les thématiques du métier de météorologue, avec quels outils on travaille, quelles sont justement nos capacités de prévision. On va aussi s'attarder un petit peu sur les perspectives du 1er mai, parce que ça, on s'y approche, donc les gens sont intéressés.
Il y a peut-être des ponts, des viaducs, comme on disait plus tôt.
Tout à fait, des viaducs plus tôt, exactement. On va parler peut-être aussi de quelques dictons météo, et puis de toutes les questions que vous pouvez vous poser, effectivement. Qu'est-ce qu'un anticyclone ? Qu'est-ce qu'une dépression ? Pourquoi on utilise tel ou tel terme. Voilà, tout ce que vous ne comprenez pas forcément sur le temps, on va pouvoir en parler aujourd'hui.
Eh bien justement, vous pouvez poser vos questions dès à présent et réagir tout au long de cette émission. Plus 33 652 300 342.
C'est l'occasion rêvée de le faire. C'est pas tous les jours qu'on peut avoir une conversation avec un météorologue. C'est uniquement sur Phare FM que ça se passe.
Et on va rendre tout ça accessible en plus, Sandrine.
Bah, bien sûr, c'est le but. Lionel Fan est avec nous jusqu'à 10h. On peut peut-être commencer par le commencement. Lionel, depuis quand ça existe les prévisions météo ?
Alors, on va peut-être même remonter un peu plus loin. La météo, le climat, le changement de ciel, les perturbations ont toujours, depuis la nuit des temps, toujours intéressé l'homme. Ça a toujours été même une crainte, jusqu'au moment où on ne comprenait pas ces phénomènes. Et on pensait que c'était effectivement des dieux qui se mettaient en colère, tout à fait. Après, on a laissé passer le Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, il y avait déjà des observations de météo qui étaient généralement consignées par des prêtres, des évêques, dans les abbayes. C'est eux qui avaient le savoir, c'est eux qui savaient lire, donc c'est eux effectivement qui consignaient un certain nombre de choses qu'ils pouvaient observer. Et puis, fin du 19e siècle, avec la guerre de Crimée, il y a eu une bataille vraiment avec un retentissement extrêmement fort, avec des pertes de navires justement en mer de Crimée, et Urbain Le Verrier, qui était français, a décidé de créer un observatoire météo. Et donc, depuis à peu près 150 ans, on va dire, on a des mesures tangibles, des mesures fiables, des mesures faites avec des appareils. Et forcément, entre les on va dire au début du XXe siècle, c'était relativement rudimentaire. Ça se limitait à l'observation, à la mesure des quantités de précipitation, de température. Et puis, après-guerre, on s'est vraiment développé et on a vraiment fait une météo de plus en plus professionnelle.
Et quand on parle de cette météo comme ça, on parle de prévision. À l'époque, ça devait être compliqué de ceux qui faisaient des prévisions. On les prenait pas pour des fous à l'époque.
Ah, si, un petit peu, effectivement, parce qu'on touchait à des choses qui étaient. C'était impensable de pouvoir prévoir le temps. Alors, on se basait surtout sur l'observation, et ça, on va peut-être pouvoir aussi en parler après, au niveau des dictons, au niveau de l'observation immédiate. Comportement de la faune et de la flore, comportement du ciel, un certain nombre d'éléments qui pouvaient et qui peuvent toujours aujourd'hui donner une indication sur le temps qu'il va faire. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas les moyens de calcul, il fallait faire plein de choses à la main, et parce qu'on va parler des modèles, on va parler de la simulation de l'atmosphère et avec quels outils on travaille.
Vous nous parliez en antenne que du côté de l'Angleterre, jusqu'à récemment, les météorologues pouvaient être mis sur le bûcher.
Ah, tout à fait. Au Moyen-Âge, celui qui avait, on va dire, le toupet, le culot, c'était hérétique, de prévoir le temps, ou de donner des indications, était passible de bûcher. Et puis cette loi est tombée forcément, heureusement, dans l'oubli, mais elle est restée, on va dire, dans l'équivalent de notre code pénal français jusqu'au début des années 50.
Du côté de l'Angleterre.
De l'Angleterre, tout.
Ah ben dis donc, comme quoi, on a échappé belle. Surtout vous, Lionel. Nous, on fait
on fait que relayer, nous.
Que relayer, exactement.
Mais vous auriez été complice.
Ah mince. Oh là là là. Non, s'il vous plaît.
Pas le bûcher quand même, une peine moindre, s'il vous plaît. On passe cette époque-là avec quelques résistants, on va dire, qui ont perduré malgré tout, persévéré, et puis qui commencent à prévoir, à faire des prévisions sur le temps qu'il va faire. Quels outils on utilise, Lionel ?
Alors, pour une bonne prévision, il y a trois étapes fondamentales dans la prévision du temps. Il y a l'observation, effectivement, du ciel, il y a la simulation de l'atmosphère, et puis il y a surtout le résultat de ces analyses. Alors, la simulation de l'atmosphère se fait comment ? Se fait avec des données qui sont récoltées dans les différentes stations météo, réparties donc en France, mais surtout réparties dans le globe. Parce que là, on parle à l'échelle globale. Et donc, sur le globe, il y a à peu près 11 000 stations réparties. Il y a des bouées météorologiques, il y a des bateaux qui emmènent un certain nombre de données. Et puis, il y a surtout maintenant, depuis maintenant plusieurs décennies, l'aide des radars et des satellites. Et donc, 90% finalement des données viennent des satellites. Et tout ça, ce sont des données qui sont combinées dans un supercalculateur. Alors, hors antenne, on en parlait un petit peu. C'est plus de 5 millions de milliards de calculs à la seconde. Donc, ce sont des ordinateurs super puissants.
Il faut demander à Sandrine, elle en fait beaucoup plus, elle, de tête.
Je pensais, effectivement.
Bien sûr, j'en fais beaucoup plus.
6 fois 7.
Voilà. Voilà.
Et donc, ces calculateurs, donc,
ces calculateurs,
vous avez accès, chaque météorologue a accès à ce supercalculateur.
Absolument. Et donc, ces données sont le modèle météo, c'est finalement une grille de l'atmosphère. L'atmosphère est découpée en grilles. Et dans chaque grille, on a un certain nombre de données. Après, à charge au prévisionniste, eh bien, de déterminer ce qu'il a besoin pour sa prévision en national ou en local, d'adapter les prévisions, on va dire, en régional, et puis surtout de délivrer une information qui soit compréhensible de tous. Donc l'exercice est, on va dire, il y a toute une trame et un processus pour arriver de l'observation à l'analyse finale, donc ce qu'on appelle un produit de prévision compréhensible de tous.
Alors aujourd'hui, on parle de ces supercalculateurs. On se dit que finalement, ce sont les ordinateurs qui font toutes ces prévisions. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Ou là-dedans, le prévisionniste, justement, a un regard. Il a des chiffres bruts et c'est à lui de faire sa prévision derrière.
Alors, il y a les deux. Effectivement, le calculateur délivre un certain nombre de cartes à différents niveaux de l'atmosphère. C'est fondamental. Pour pouvoir prévoir le temps, il faut savoir pas seulement le temps qu'il fait en surface, mais sur une épaisseur de 10 km. Finalement, l'atmosphère météo, c'est 10 km sous nos latitudes d'épaisseur. Mmh. Et c'est finalement très peu de choses par rapport à l'épaisseur totale de l'atmosphère. Donc, l'atmosphère météorologique, c'est comme ça qu'on le détermine, est vraiment une toute petite couche de l'atmosphère inférieure où se passent tous les phénomènes météo. Elle est un peu plus haute à l'équateur et beaucoup plus basse au pôle. Et donc, à nous, d'avoir effectivement un regard sur ces données issues du calculateur, c'est fondamental pour pouvoir avoir une vision eh bien, à plusieurs heures et à plusieurs jours. Et puis à nous, après, d'adapter et de parfois refaire les calculs. Et il y a des choses parfois aberrantes qui sortent du modèle. Mmh. C'est à nous de justement de trancher et de prendre la bonne décision pour la bonne simulation. Mmh.
On va voir tous ces détails dans un instant. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Plus 33 652 300 342 en ce qui concerne la météo, les phénomènes météorologiques. On va revenir dans un instant de ce qui s'est passé ces derniers mois. Essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé et surtout de voir ce qu'est le météo pour les prochains jours. Et même, on ira même jusqu'à l'été. En tout cas, on donnera des tendances. Ça sera dans un instant sur Phare FM.
On continue avec Lionel Fan, notre invité qui est météorologue et on ne peut pas ne pas en parler. On a l'impression que la météo a joué au yo-yo dernièrement, Lionel. Enfin, je veux dire, entre le mois de mars et le mois d'avril, on est passé de l'hiver à l'été sur pas mal de régions, dans pas mal d'endroits. C'est normal, ça ?
Alors déjà, il est passé de l'hiver à l'été pour notre plus grand bien, et puis ça a fait du bien au moral.
C'est vrai, non, on
ça,
est d'accord.
C'est une
oui,
bonne chose.
On va pas s'en plaindre.
Voilà. Après, sur le plan purement scientifique, effectivement, ça a pu choquer, ça a pu interpeller, mais la variabilité naturelle du climat fait que dans nos régions, que ce soit en France, en Belgique, en Suisse, en général en Europe occidentale, on a des variations qui sont importantes d'une saison à l'autre, d'un mois à l'autre. Et puis, le printemps et l'automne sont des saisons charnières. Au printemps, on a encore un réservoir d'air froid assez conséquent aux latitudes nord. Et puis, le sol, plus au sud, se réchauffe considérablement. Donc, les conflits de masse d'air sont importants. Et il arrive même qu'un peu plus tard dans la saison, au mois de mai, donc en plein milieu du printemps, parfois, les orages qui peuvent se développer sur nos régions sont beaucoup plus violent qu'en plein été, parce que justement l'amplitude thermique entre le sol et la haute atmosphère est vraiment maximale au printemps. Donc rien d'anormal. C'est vrai que le mois de mars a été particulièrement hivernal, après finalement un hiver très moyen. Mmh. Il a fait plus froid au mois de mars qu'au mois de janvier. Mmh. Alors ça interpelle, c'est sûr. On pourrait penser qu'il y a une évolution, un dérèglement climatique.
Oui, c'est j'allais vous poser la question justement.
Voilà. Alors on va dire ce type de phénomène est, je ne veux pas dire classique, mais est déjà arrivé. Mmh. Voilà. Pour le moment, l'état actuel des choses, on ne peut pas faire de lien direct. Mmh. Il faudrait que ce phénomène
ça se reproduise
très régulièrement.
Alors justement, les auditeurs, et même nous, en observant, on se dit, mais là, il y a ce dérèglement, est-ce que c'est normal, est-ce que c'est cyclique, ou est-ce qu'on a la mémoire courte et qu'on ne se souvient pas qu'il y a quelques années, il y avait aussi ce genre de phénomène qui arrivait selon les périodes, Lionel?
Alors il y a un peu des deux, c'est vrai que la main de l'homme sur le climat est réelle, ça, il ne faut pas le nier, c'est certain, mais avec des degrés différents, selon les régions, selon les saisons, on remarque une progression sur l'ensemble de nos régions, effectivement, plus 0,5, plus 1 degré depuis le début de l'ère industrielle. Il y a une tendance, mais il y a aussi des cycles, effectivement. Il a déjà fait beaucoup plus chaud, bien plus tôt dans le passé, notamment au haut Moyen-Âge, où les températures étaient supérieures à celles qu'on avait aujourd'hui, et d'ailleurs où, même sur l'aspect physique des hommes, les hommes étaient beaucoup plus grands en l'an 1000 qu'en plein fin de Moyen-Âge. Donc, il y a ces phénomènes-là. Mais c'est vrai que la main de l'homme, elle est présente. Après, il est tout à fait naturel, encore une fois, d'avoir ces variations. Ces variations sont surtout sur nos latitudes. Et puis, à mesure que l'on se déplace à l'intérieur des terres, proche de l'océan, on a moins cette douceur que l'on peut avoir le long des côtes. Et donc, le climat est beaucoup plus affirmé, beaucoup plus tranché. Les écarts de température sont beaucoup plus grands entre l'hiver et l'été dans nos régions.
On continue avec une question de Julien, qui dit « Ce qui fait froid dans le dos, c'est que les scientifiques chercheraient à contrôler le temps et la météo. » Il fait référence aussi à un reportage que vous avez peut-être vu de l'autre côté de la radio, un reportage passé sur Arte qui confirme ce que disait un film sorti il y a moins d'un an. Est-ce que c'est possible, Lionel ?
Alors, il y a certains scientifiques, pas tous les scientifiques, évidemment, certains programmes, notamment qui ont pu être développés par la NASA, par les Chinois, par les Japonais, par les Russes également, où on imaginait pouvoir ensemencer les nuages. Pour la simple et bonne raison que pour former un nuage, il faut des noyaux de condensation. Ces noyaux de condensation peuvent être des particules, des poussières, de la pollution. Et donc, l'humidité va s'agglomérer jusqu'à former un nuage. Et donc, l'idée pour ces pseudo-scientifiques, parce que là, c'est jouer avec le feu et être l'apprenti sorcier quelque part, eh bien, l'idée pour eux, c'était de dire on fabrique un nuage et il va pleuvoir à tel endroit. Ça ne s'est pas passé comme ça. La thermodynamique et l'atmosphère est très compliqué, et puis Dame Nature est bien plus forte, et fort heureusement. Ça, c'est clair. Donc, on peut envisager, effectivement, à certains moments, il y a eu des programmes, effectivement, qui pouvaient laisser prétendre qu'on pourrait dominer le temps et en faire finalement même une arme. Aujourd'hui, non, ce n'est pas possible à grande échelle.
Alors, heureusement.
On parle aussi de notamment les Russes qui, lors de défilés officiels, le temps était mauvais, limite pluie avec des nuages. Et puis, des avions circulent dans le ciel et quelques minutes après ou quelques heures après, le ciel se dégage. Il y a quelque chose qui existe ou c'est de l'imaginaire?
Non, il y a des choses qui existent. Alors, c'est vrai que encore une fois, un nuage doit la particule d'air va monter dans l'atmosphère, va se refroidir, et si vous voulez, plus l'air est froid, moins il peut contenir de vapeur d'eau. Et donc très rapidement, il va se condenser et former un nuage. Si on fait passer un certain nombre d'avions, les avions dégagent de la chaleur de par leur réacteur, et donc à un moment donné, le point de condensation va s'élever et la masse d'air va temporairement s'assécher. Donc s'il y a nuages, et encore pas tous les types de nuages, il faut que ce soit des nuages on va dire à développement horizontaux. Si on a des nuages d'orage qui font 10 km d'épaisseur, c'est totalement impossible, on n'aura aucune ouverture. Mais des nuages très fins, effectivement des nuages de pluie, quand on a le ciel couvert, ce sont ce qu'on appelle des nimbostratus, donc des nuages qui ne sont pas très épais à la verticale. Donc là, on peut imaginer effectivement très temporairement qu'il y ait une ouverture. C'est comme les traînées de condensation des avions à réaction. On voit se former un nuage que nous on appelle des cirrus, des cirrostratus, qui sont des nuages très élevés avec formés de particules de glace. Donc ça, c'est possible, effectivement.
Ouais, bien sûr, je comprends mieux, comme j'habite pas très loin d'un aéroport, pourquoi il y a toujours cette zone bleue souvent au-dessus de l'aéroport.
Au-dessus de chez toi aussi,
il y a un
petit nuage.
Voilà, c'est ça. Voilà. Un petit nuage, justement, il n'y en a plus. Vos questions, vos réactions, dans un instant, on va vraiment voir ce qui se passe le week-end prochain, les jours prochains aussi. aussi, si vous voulez partir avec ces ponts que vous pouvez peut-être poser, n'hésitez pas à rester sur l'antenne de Forfem et à poser vos questions.
0033 652 300 342, vous voyez qu'il y a vraiment véritablement de quoi dire hein, du côté de la météo. Lionel Fan, météorologue, est notre invité. Alors c'est bien beau, mais concrètement, Lionel Fan, est-ce que c'est une bonne idée de se prendre quelques jours au mois de mai là? Il va faire beau? Quel temps il va faire?
Alors c'est toujours bon de prendre un peu de repos, et puis là, cette année, on est gâté. C'est vrai. Alors, météorologiquement parlant, on ne sera pas forcément gâté, en tous les cas, pas tous en même temps et pas tous logés à la même enseigne.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire que l'anticyclone qui est présent cette semaine, plus ou moins présent, va connaître une petite faiblesse en début de week-end. Donc, il va laisser passer quelques perturbations océaniques. Donc, samedi, dimanche sera finalement un temps assez moyen, avec des températures de saison. Donc, rien à voir avec le week-end dernier. Ça, on en est sûr. En termes de luminosité, on verra de temps en temps le soleil, notamment, on va dire, sur la Suisse, sur le sud de la France. Sur la partie nord et Belgique, ça sera un peu plus compliqué, ça sera un peu plus nuageux, un peu plus chaotique. Mais finalement, l'ensemble de ce premier pont de mai sera quand même plutôt mitigé. On retiendra plutôt, par rapport surtout à ce que l'on a connu, finalement, un pont du 1er mai très moyen.
Très moyen. Et donc, sur les prochains jours après ce 1er mai, quelle tendance?
Ouais, mi-mai, fin mai.
Mi-mai, fin mai. Alors, il semblerait que jusqu'au 6-7, on connaisse justement ces températures et ce temps un petit peu chaotique, changeant, un petit peu en dents de scie. Un temps progressivement plus calme et plus sec vers la mi-mai. Et puis, finalement, vers la fin du mois, un temps probablement plus chaud, plus stable. On semble changer un petit peu de régime avec le retour des hautes pressions. Donc, ça sera positif certainement après le 15 mai.
Alors, généralement, quand on fait des prévisions comme ça, on donne un degré de certitude. Est-ce que vous avez un degré de certitude quand on parle de ces tendances-là? C'est-à-dire que sur une échelle de 1 à 5, ou je ne sais pas comment, quelle échelle, le degré de certitude de ces tendances-là, elle est de combien?
Alors, le degré de certitude, quand on parle d'échelle de 1 à 5, on le voit souvent à la télé.
Oui, hein, tout à fait.
L'indice de confiance de la prévision, il reste dans un domaine limité à 7-8 jours. Au-delà, ce sont des prévisions qui sont encore expérimentale. Quand on parle de prévision saisonnière, on a des modèles justement qui fonctionnent dans ce sens-là. Il faut prendre ça avec précaution, mais c'est vrai qu'il y a des signes. On est quand même de mieux en mieux capable de dire voilà, telle saison, les 3 mois à venir seront plutôt secs, plutôt humides ou plutôt froids ou plutôt chauds par rapport à la moyenne, c'est ça.
Alors, je voudrais revenir sur un dicton, en tout cas les fameuses saintes glaces. Donc c'est le 11, le 12 et le 13 mai. Les anciens disent que pendant ces nuits, la lune est rousse et qu'elle peut brûler les plantations, et donc cette période des saintes glaces, donc du 10 au 20 mai, il faut surveiller la météo et protéger les plantes au cas où il y aurait des gelées. C'est toujours vrai ça? Est-ce qu'il faut avoir peur de ces saintes glaces?
Alors les saintes glaces ont du sens, on va dire, dans la mesure où les agriculteurs avaient vraiment une très bonne vision des choses et une très bonne observation de la nature. C'est que dans les régions septentrionales, en général, jusqu'à la mi-mai, voire parfois même un petit peu au-delà, sous un ciel clair, on sait pertinemment que la température est beaucoup plus froide, et dans certains cas, on peut encore avoir des gelées. Donc, prudence. Par contre, qu'il gèle le 11, le 12 et le 13, ça arrive 2 fois par décennie.
Ah,
et
oui,
cela depuis qu'on fait vraiment de la statistique. Donc, c'est pas forcément avéré. Mais c'est vrai qu'au niveau de la lune rousse, alors c'est très souvent, l'agriculteur plantait semait ses graines. Les petites plantes étaient bien jeunes, bien tendres. Et puis, le matin, patatras, elles étaient roussies par le gel. Il levait les yeux au ciel et voyait la lune. Et donc, il accusait la lune à tort. Souvent, c'était les rayons de la lune qui brûlent. Mais la lune n'y était pour rien. En fait, on voyait la lune tout simplement parce qu'il n'y avait pas de nuages. Et quand il n'y a pas de nuages à cette période de l'année, et quand on a un flux de nord-est, par exemple, eh bien, on peut avoir des gelées.
Alors, moi, j'aimerais revenir sur ces saintes glaces. Déjà, comment ça s'écrit?
Sainte glace.
Oui.
Sainte glace.
Oui,
d'accord.
C'est ça. C'est pas les saints de glace, c'est sainte glace.
D'accord.
Voilà.
D'accord.
C'est
okay.
Ça.
Et ça désigne donc du coup cette période froide de quelques jours qui peut arriver au mois de mai?
Tout à fait. Et généralement, on a même dans les secteurs, dans les régions germanophones, ce qu'on appelle la cold Sophie. La cold Sophie qui tombe le 25 mai et donc qui est encore une petite période de froid où justement on peut encore avoir quelques gelées blanches ou quelques gelées sous abri.
Nord-est, plus nord-est.
Plus nord-est, tout à fait.
Et alors on a une question de Santo qui nous dit, ok, est-ce qu'il sera possible un jour d'atteindre les prévisions météorologiques comme dans Retour vers le futur numéro 2? Alors il explique un petit peu que les prévisions donc dans Retour vers le futur numéro 2 sont tellement précises qu'elles sont données à la seconde près où il arrête de pleuvoir. Est-ce que ça sera possible ça un jour? Ou est-ce que c'est déjà possible?
Alors à la seconde, non. Mais à la minute, oui.
Ah oui. À la minute.
À la minute, oui. Dans le sens où, quand on fait, par exemple, de l'assistance de suivi de chantier, par exemple, pour les professionnels du BTP, quand on fait de l'assistance à, justement, lors des Grands Prix de Formule 1, on est capable de dire, voilà, tel événement pluvieux va commencer à telle heure et finir à telle heure, et à la minute près.
Wow.
Donc, mais en étant vraiment concentré que sur cette tâche-là. On est vraiment capable, puisque maintenant, avec les images satellites, on a un décalé par rapport au réel de 3-4 minutes. Donc, on est vraiment capable d'anticiper, de bien travailler les choses et d'avoir des prévisions extrêmement fiables. Il est arrivé, sur certains Grands Prix de Formule 1, qu'au début de la course, la piste était sèche et puis qu'en fin de parcours, il y avait un orage avec justement de la pluie, chaussée détrempée, quels pneus montaient.
Oui, c'est vrai.
Et voilà. Et donc, là, on est capable vraiment de faire des prévisions extrêmement, extrêmement fiables. Par contre, à la seconde, non. Mais à la minute, c'est déjà très, très bien.
C'est déjà pratique, ça peut être pratique pour des événements. On arrive à la fin de notre émission et on avait prévu de parler de tendances pour cet été. Eh bien, on va tenir notre promesse. En essayant de voir, on a parlé du mois de mai, de parler déjà du mois de juin. Comment ça va se passer pour le mois de juin côté météo?
Alors, il semblerait que pour le mois de juin, on va dire qu'il est valable pour juillet et août. Hein. On peut maintenir ces trois mois dans la
ensemble.
Même perspective, ensemble. Donc, le cas classique, c'est souvent un temps plutôt orageux, un temps plutôt notamment du sud-ouest au nord-est, donc du sud-ouest de la France jusqu'au nord-est, donc Belgique compris, région suisse également. Plutôt des températures supérieures à la normale, donc plutôt un été chaud.
D'accord.
Avec,
même dans les climatiseurs, les ventilateurs.
Il y a de fortes chances qu'on ait de beaux épisodes de temps chaud, avec plutôt des hautes pressions sur l'Europe du Nord. Donc peut-être que l'Europe du Nord sera jusqu'au nord de la France, sera certainement plus avantagée que le sud, où il semblerait que les dépressions, notamment sur la péninsule ibérique, stationnent. Donc ça voudrait dire que finalement, de la Suisse à la Belgique, sur une bonne moitié nord de la France, on connaisse des épisodes orageux classiques, évidemment, mais tout cela dans une atmosphère globalement supérieure aux moyennes saisonnières.
Voilà, donc comme ça,
donc un très bel été.
Un bel été.
Je pense surtout un été chaud où justement à l'intérieur de cet été on va pas dire pendant trois mois il va faire beau et ce serait pas le propre de notre climat, mais plutôt un été sympathique effectivement.
Voilà pour planifier votre été. On va préciser aussi que Lionel Fan bien entendu est donc fait partie d'Azur Météo Conseil et qu'il livre les météos que vous pouvez entendre sur l'antenne de Phare FM.
Exactement.
Et donc voilà, n'hésitez pas à regarder aussi écoutez ces météos qu'on diffuse sur l'antenne. Écoutez, c'est mieux, Sandrine.
Voilà.
Regardez, c'est si on fait de la télé.
0033 652 300 342 reste le numéro de téléphone sur lequel vous pouvez nous joindre dans le Positif Morning. Vos réactions par rapport à tout ce que vous avez entendu aussi dans l'émission, c'est via ce numéro de téléphone. C'est la fin de notre émission.
Exactement, Sandrine. On va préciser aussi que ce rendez-vous d'une heure sera en replay sur le site internet farfm.com. Si vous voulez le réécouter et donc en savoir un peu plus sur les phénomènes météorologiques ou en tout cas les outils qu'on utilise pour la météo. Merci beaucoup Lionel.
Merci à vous.
Et Sandrine, on se retrouve demain à partir de 6h comme d'habitude. Et demain, on parlera jardinage avec Patrick Makovka.
Maintenant qu'on sait quel temps il va faire,
et
on va pouvoir aller planter des choses dans le jardin. À demain donc, 6h pour le Positif Morning. Belle journée avec Phare FM. Bye bye.